Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes courtes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sap,
chiffon, chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir les coulisses de la laine cachemire. Qui n'a pas envie de se lever dans un pull cachemire tout doux dès l'arrivée des premiers frimas de l'hiver ? Pourtant, la production en masse de cette laine si précieuse est de plus en plus controversée. Coûts exorbitants pour l'environnement, épuisement des terres en Mongolie et maltraitance des chèvres. J'ai donc décidé de creuser le sujet et d'inviter à ce micro Carole Benaroya et Stéphanie Eriksson, les co-créatrices de la marque Kuchten Cachemire. Elles ont réussi à allier cachemire de qualité et respect d'un savoir-faire ancestral, le tout à l'échelle humaine. Bonjour Carole. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Valérie.
Alors, on va commencer par une question générale. Qu'est-ce que c'est le cachemire ?
Alors, le cachemire, c'est une fibre naturelle. Elle provient de la chèvre Capra isca, qui vit spécialement en Asie et qu'on trouve sur les hauts plateaux qui résistent vraiment aux hautes températures, basse température jusqu'à moins 40 degrés. C'est une fibre très noble, c'est la plus douce et la plus chaude des matières laineuses.
D'ailleurs, pourquoi on dit que c'est la plus chaude ? Pourquoi elle est chaude, cette matière ?
Ça vient particulièrement de cette chèvre qui crée cette toison pendant ces températures très, très, très basses et qui vraiment se protège. Donc, il y a vraiment une caractéristique très particulière qui fait que vraiment elle a cette qualité de chauffer vraiment la peau.
Donc, c'est vrai quand on dit que le cachemire est très chaud.
Exactement. C'est beaucoup plus chaud que de la laine, en fait. C'est 4 fois plus chaud que de la laine.
4 fois plus chaud. Ouais. Alors, comment se fabrique cette laine ?
Alors, la laine se fabrique tout d'abord par le peignage des chèvres, qui se fait une seule fois par an. Généralement, c'est au printemps, entre fin mars jusqu'au mois de mai. Et donc, ces chèvres sont peignées, on récolte la matière. Cette matière est ensuite traitée, lavée. On l'enlève de toutes ses impuretés, on la nettoie, on la fait propre et ensuite elle est repeignée.
Juste une parenthèse, comment parce que la controverse aussi vient, comment on fait pour enlever cette laine ?
Alors la laine en fait elle est peignée.
Peignée, alors qu'est-ce que
voilà. En fait la chèvre, elle est, comment dirais-je ? Il y a des peignes spécifiques en fait, c'est vraiment des peignes qui existent.
Vous pouvez vous partager le micro.
Non, en fait, il y a vraiment un peigne. C'est pas comme un peigne de cheveux humains, mais
voilà,
c'est comme un peigne un peu, des grandes tiges avec des comme une des griffes un peu, mais enfin.
Et qui enlève la laine au passage.
Voilà, exactement.
D'accord.
Manuellement, tout en douceur.
Donc, en principe, les chèvres ne souffrent pas.
Les chèvres ne souffrent
pas. À la base.
Pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est c'est des chèvres qui muent. Et donc, on les débarrasse de cette toison. C'est un moment qui est plutôt agréable pour l'animal. Et donc, voilà, c'est vraiment un effet, un geste de douceur qui est fait. Et pour l'avoir vu plusieurs fois et même pratiqué, c'est vraiment sans souffrance.
Alors, comment ça se passe ? Donc, on a retiré la laine et ensuite, les étapes de fabrication d'un pull. Comment on arrive à faire un pull ?
Alors,
après, ça dépend des marques, j'imagine.
Ça dépend des marques. En fait, nous, ce qu'on a la chance de pouvoir faire, c'est de pouvoir travailler
Kuchten,
depuis
mais
le
on en
départ.
Parlera, on en, voilà, parlera après. On en parlera après. La base de fabrication.
La base de fabrication, en fait, c'est d'avoir donc cette matière première, ensuite qui est filée pour avoir le fil. Une fois que le fil est prêt, on le met sur des machines et on commence à tricoter des panneaux. Donc, pour faire un pull, il y a plusieurs panneaux. Il y a 5 panneaux. Il y a un devant, un dos, des manches et le col. Une fois que tout ça est fait, on les monte ensemble, on fait un assemblage et après on lave le pull, on le met en forme. Une fois qu'il est repassé, etc., on l'emballe et puis il est prêt.
Alors pourquoi il y a des différences de prix comme ça entre les pulls cachemire ? Parce que maintenant j'ai vu qu'il y avait même des chaînes qui se créent, le cachemire pas cher dans Paris. Pourquoi ça... Qu'est-ce qui explique ces différences de prix?
Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup de gens emploient le mot cachemire, finalement, alors que la composition n'est pas du 100% cachemire.
Donc, il faut faire attention, bien lire les étiquettes.
La première chose qu'il faut faire, voilà, c'est lire l'étiquette, exactement. La composition, donc, c'est vrai qu'à partir de 30 ou 40% de cachemire, voire 5% de cachemire, des fois sur le marché, on peut voir pull en cachemire, alors qu'en fait, c'est juste 5% de cachemire. Donc, faire attention à la composition.
Donc, ce n'est pas un pull cachemire.
Pas du tout, exactement. De même, le cachemire, en fait, pour pouvoir être appelé cachemire, la fibre doit faire moins de combien, 15 microns, c'est ça ? Moins de 15 microns, donc c'est une finesse. Ça veut dire que quand on peigne la chèvre, tous les poils supérieurs à 15 microns n'ont pas l'appellation cachemire. Or, pareil, les poils qui ont 16 ou 17 microns sont quand même doux, c'est quand même pas très loin du 15, donc c'est des fils beaucoup plus gros. Et donc, il y a également un flou autour de ça, où certains producteurs vont prétendre vendre du cachemire en prétendant que, par exemple, c'est du gros fil ou qu'ils sont plus lourds, alors qu'au contraire, plus le fil est gros, moins c'est une bonne qualité, plus ça va boulocher, etc. On en parlera plus tard. Donc voilà, la composition, le lieu de fabrication. Effectivement, quand c'est fabriqué, par exemple, au Cambodge ou au Vietnam, ce n'est pas des spécialistes du cachemire, donc la façon, l'expertise va être beaucoup moins bonne. Quand on fabrique en Mongolie, comme nous, en Italie, en général, c'est plutôt de la bonne qualité. La Chine aussi, malgré ce qu'on peut dire, ça reste une bonne qualité également. Mais voilà, il y a des l'île Maurice, en général, ça s'améliore, mais c'est quand même un petit peu moins bon au niveau de la qualité.
Donc, le cachemire à l'île Maurice, c'est pas...
Disons que c'est pas leur spécialité, quoi. C'est vraiment le savoir-faire et l'expertise du tissage de la maille cachemire, c'est vraiment en Mongolie, en Chine et en Italie. Voilà, c'est vraiment les trois, et en Irlande et en Écosse à l'époque. Il y en a de moins en moins, mais voilà, les quatre vrais spécialistes, c'est ces quatre pays-là.
Pourquoi ces critiques sur la fabrication du cachemire, ça devient un sujet qui n'était pas abordé il y a encore peu de temps, hein. Maintenant, dès qu'on parle cachemire, tout de suite, c'est oh là là, production de masse, oh là là, c'est pas écologique, oh là là, les chefs sont maltraités. Alors, est-ce qu'on peut traiter les sujets un par un?
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe avec le cachemire en ce
moment? Alors, ce qui se passe, déjà, il y a une grande confusion sur le cachemire qui est un peu traité comme de la fourrure, puisque ça vient d'un animal. Mais bien évidemment, les chefs ne sont pas tués. Au contraire, elles sont chouchoutées, bichonnées, par les éleveurs, puisque c'est leur, finalement, leur source de revenus. La matière est très précieuse et très luxueuse. Donc, au contraire, on prend a priori, encore une fois, il y a des mauvais exemples, malheureusement,
qui ont fait le tour sur la toile. Il faut en parler,
quoi. Voilà, exactement. Mais voilà, il se trouve qu'il y a eu effectivement des vidéos de la PETA, notamment, qui ont montré des élevages où les éleveurs maltraités, peignaient, on va dire, brutalement les chèvres. Maintenant, ça reste vraiment des exceptions, théoriquement, puisque nous, en tout cas, parler de Kuchten en particulier, mais je pense qu'il y a quand même un respect de la chef qui produit le cachemire, parce que c'est encore une fois une matière très luxueuse. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des abus comme partout, mais c'est comme pour la laine, pour la tonte des moutons, il y en a peut-être qui sont mieux
bien sûr. Tondus. Mais j'ai vu qu'en Chine, certains éleveurs mettent leurs chèvres dans des courants d'air, les exposent au froid, exprès, pour qu'elles produisent plus rapidement leur laine. Alors, c'est ce qu'on leur reproche.
Alors ça, je ne l'ai pas vu. Ça, je ne l'ai pas vu. Mais oui, effectivement, c'est vrai que la laine, comme l'expliquait Stéphanie, plus il fait froid, plus la laine va être meilleure. Donc, ça paraît complètement fou, mais pas impossible. Maintenant, voilà, nous, en tout cas, on ne fabrique pas en Chine. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas tellement vérifier ça. Après, c'est à chaque producteur et à chaque fabricant de vérifier son sourcing, de voir comment ça se passe. Et malheureusement, je pense qu'avec toutes les polémiques qu'il y a en ce moment, il y a de plus en plus de normes qui vont être mises en place. Les usines vont devoir elles-mêmes fournir soit Ecotex, soit pas mal de normes ISO, etc., qui se mettent en place de plus en plus. C'est dans l'air du temps de faire attention à la production. Malheureusement, je pense qu'il y a des abus, mais comme dans toutes les industries.
Et on dit que la Mongolie se désertifie aussi. Qu'est-ce qui se passe en Mongolie?
Alors, il y a plusieurs nuances. Il y a la Mongolie et la Mongolie intérieure. Donc ça, c'est également un gros point.
Il faut le dire.
Voilà, exactement. Où les consommateurs peuvent se faire un petit peu berner. La Mongolie, là où nous fabriquons, c'est la vraie Mongolie, c'est-à-dire la République de Mongolie, dont la capitale est Oulan-Bator. Après, il y a une confusion avec la Mongolie intérieure, qui est une région de la Chine. Donc, beaucoup de fabricants prétendent fabriquer en Mongolie. En fait, c'est Inner Mongolia, qui est une région de la Chine, comme on dit, la Bretagne, mais qui est du Made in China. Et les problèmes de désertification sont notamment en Inner Mongolia, puisque de toute manière, en Mongolie, le désert de Gobi est déjà désertique. Alors effectivement, les chèvres, elles montent dans les montagnes, mais il y a beaucoup moins de production de masse en Mongolie qu'en Inner Mongolia. Ceci dit, que ce soit en Chine ou en Mongolie, effectivement, c'est un problème de désert. Il y a quand même un problème, puisque comme on va le dire un petit peu plus tard, il y a une demande qui a explosé sur le Cachemire par rapport à l'offre ces dernières années. Donc, c'est vrai que justement, c'est aux consommateurs de vérifier la composition, de vérifier la fabrication. La ligne entière de production depuis l'élevage jusqu'à la récolte, etc., jusqu'à l'arrivée en magasin, et pour avoir une consommation éco-conscious qui permettra un petit peu de lutter contre ça, malheureusement.
Oui, parce que c'est vrai que quand on voit les cachemires monoprix à moins de 100 euros, idem pour Uniqlo, et j'en passe, c'est que forcément, il y a eu quand même de l'abus au niveau de la production.
Bah voilà, effectivement, il y a de l'abus.
Sans attaquer ces marques,
non,
bien évidemment.
Non, parce que la qualité n'est pas forcément moindre, de toute manière. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est devenu un produit d'appel. C'est un peu le saumon fumé des années 90.
Oui, c'est donc, ça, j'allais le dire. Alors, dans les années 90, vous avez déclaré, toutes les deux, le cachemire a été galvaudé comme le saumon fumé dans les années 90. Alors, pourquoi cette comparaison avec le saumon fumé? J'ai trouvé ça pas mal comme phrase.
Parce qu'en fait, c'est vrai que le saumon fumé comme le cachemire sont des produits de luxe qui étaient auparavant réservés à une élite. Et c'est vrai que nous, quand on a créé Kuchten il y a 6 ans, on n'a pas voulu désacraliser le cachemire en le rendant accessible, pas cher, mauvaise qualité, etc. On a voulu le faire connaître finalement cette fibre qu'on adore en twistant, en le révolutionnant d'un point de vue modernité, d'un point de vue coupe, d'un point de vue couleur, mais sans pour autant perdre l'expertise, le savoir-faire, l'entretien, le SAV, etc.
Or, service après-vente.
Le service après-vente, voilà, exactement. Ça veut dire que l'expérience en boutique, dans une boutique Kuchten, les vendeuses, elles sont formelles, vont savoir comment entretenir, elles vont pouvoir raconter l'histoire, d'où vient le cachemire, etc.
Donc vous avez créé le cachemire éco-responsable.
Exactement.
Prix abordable, qualité, traçabilité et style.
Et style, exactement.
Et comment est-ce possible?
Comment est-ce possible? Alors ça, c'est Stéphanie qui...
En ce qui concerne le cachemire éco-responsable, nous, en fait, nous avons, dès la création du Kuchten, créé cette ligne éco-responsable. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des couleurs naturelles sans teinture. Donc, en fait, c'est vraiment les couleurs de base, c'est-à-dire les crus, le beige, le taupe, etc., qui composent, en fait, cette ligne 100% naturelle sans teinture. Voilà, en fait, en Mongolie,
il y a 4 couleurs
en
de
chèvre,
poils.
Voilà, exactement. Il y a plusieurs couleurs de chèvre. En Chine, elles sont toutes blanches.
De poils de chèvre.
Magnifiques, poils de chèvre. Et en Mongolie, il y a vraiment des nuances différentes. Il y a des petites chèvres grises, des marrons. Enfin, elles sont vraiment toutes mignonnes. Et il y a 4 couleurs naturelles. Donc, avec ces teintes naturelles, sans teinture, on arrive à avoir cette maille d'exception. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de Kuchten? Vous êtes rencontrées toutes les deux?
Alors voilà, l'histoire de Kuchten, c'est d'abord une histoire d'amitié, puisque Stéphanie, c'est la cousine de ma meilleure amie d'enfance. Donc on a fréquenté les boîtes de nuit, les anniversaires, les booms, etc. depuis qu'on a 10 ans à peu près. Et c'est vrai qu'on est toutes les deux. Donc Kuchten, c'est une amitié. On est amoureuse du cachemire, des belles
vous
matières.
Vous l'avez créé il y a combien de temps?
En fin 2012. Donc
fin 2012.
Ça va faire presque 7 ans.
Ouais, au moment où le cachemire explosait.
Pas encore. Enfin, ça commençait, c'était le frémissement, mais c'était pas encore. Mais effectivement, il y avait une tendance qui
commençait. Alors, vous êtes dit, on va fabriquer du cachemire, et vous avez pris vos sacs à dos, vous êtes partie en Mongolie, c'est ça?
Alors, Stéphanie était partie un petit peu avant moi, parce qu'en fait, Stéphanie.
En fait, moi, j'ai une expertise depuis maintenant 15 ans dans la maille, parce que j'ai commencé dans une maison de tricot anglaise qui s'appelle Joseph, qui était une très belle maison, et vraiment, j'ai fait mes armes là-bas. Et
qui existe encore?
Qui existe encore, absolument. Mais à l'époque, la maille était vraiment très très présente.
C'est leur cœur de
cible. C'est leur cœur de collection. Et donc j'ai vraiment fait mes armes. Mais c'est vrai que passé 15 ans dans cette très belle maison avec Carole, on s'est dit il était temps de voler de nos propres ailes. Carole, elle qui vient du monde de la finance.
Et moi, donc, j'avais passé 15 ans dans la finance et pareil, on arrivait toutes les deux à un tournant de nos vies où j'étais un peu usée de la finance. Stéphanie, pareil, voulait prendre son envol dans la création. Et c'est vrai qu'on est toutes les deux des modeuses et on s'est dit, voilà, c'est dans le cachemire, en tout cas, il y a 6 ans, même si ça commençait à émerger un petit peu cette grande mode du cachemire, l'offre était quand même très, très, très limitée.
Et souvent très chère aussi.
Très chère, très limitée, etc. Dans les coupes, dans les couleurs, nous, on n'arrivait pas à s'habiller dans cette matière. Donc c'est vrai qu'on rêvait de cachemire, on fantasmait sur les vestiaires de nos mères, de nos grand-mères, etc. Mais on voulait avoir quelque chose qui nous correspondait plus à l'époque. Donc c'est vrai que Stéphanie, elle a commencé à se poser, à faire des magnifiques modèles. Et on est parti en Mongolie. Elle avait déjà le sourcing.
Donc vos pulls sont créés en Mongolie.
Exactement. En fait, la création est à Paris, donc au studio.
Donc création, c'est-à-dire, on va tout détailler.
On va dessiner. En fait, les modèles. On va créer ce qu'on appelle une fiche technique, donc ce qui permet en fait à l'usine de retranscrire la forme sur une machine et qui va pouvoir tricoter donc le fameux pull. Et donc après, on part en Mongolie pour être sur place avec toutes les équipes techniques et de mettre au point vraiment la collection. Donc on fait les essayages, non pas en mongol, on parle en anglais, mais voilà, on fait tout l'essayage là-bas. On vérifie aussi les productions.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez voir les agriculteurs, les fermiers,
les nomades.
Les nomades. Oui, oui. On les appelle les nomades.
Oui, exactement. En fait, c'est une fabrication, la récolte de la matière reste vraiment un savoir-faire ancestral et c'est exclusivement réservé aux nomades. Donc il y a pas de, il y a pas d'usine.
Qu'est-ce que vous appelez les nomades ?
C'est Mongols qui vivent dans les steppes, en dehors de la ville et qui ont cette vie complètement.
Exactement. Vous pouvez mettre le micro.
Ah oui, donc en fait, on a un film que Stéphanie a fait lors de son dernier voyage. On voit très bien finalement les nomades, donc les Mongols, qui vivent avec leurs femmes, leurs enfants, dans les yourtes, vraiment dans la steppe, et qui suivent finalement tout au long de l'hiver leur élevage, d'où le mot nomade.
Ils suivent leurs chèvres dans les hauteurs.
Pendant la transhumance. Exactement, donc pendant 6 mois, effectivement. Et c'est vrai qu'il reste plus ou moins fixe, en revanche, à partir de la tonte.
Vous avez assisté aux tontes ?
Oui, exactement. Oui, oui. Alors, on y va plusieurs fois par an. On assiste
le peignage.
Peignage, oui, c'est vrai. Il ne faut pas dire la tonte. Le peignage.
Exactement, elles sont peignées. Donc, on y va plusieurs fois par an, dont effectivement une période qui est spécifiquement dédiée au peignage des chèvres.
C'est à quelle époque, à peu près ?
C'est au printemps.
Au printemps.
Donc, au moment où la chèvre va muer, on va vraiment la dégager de cette lourde laine et pour l'alléger et récupérer cette belle fibre.
Donc, ensuite, cette. Ah ouais,
non, et c'est un moment très beau, en fait, en plus, le peignage, parce que c'est aussi souvent le moment des naissances au printemps. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une joie pour les nomades. Chaque naissance est accueillie comme un enfant. C'est vrai que c'est pour ça que, par rapport aux polémiques dont on parle, en tout cas, nous, les nomades qu'on rencontre, chaque nouvelle naissance, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant, c'est très, très festif.
En fait, leur cheptel est vraiment considéré comme des membres de la famille. Ils ont entre 100 et 150 chèvres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils les connaissent toutes, qui sont les mâles, qui sont les femelles, qui sont les mâles dominants, qui va avoir telle et telle portée. La dernière fois, on a assisté à une naissance, donc ce qui était incroyable. Souvent, quand il y a des naissances qui sont un petit peu encore trop tôt, c'est-à-dire qui arrivent un petit peu en hiver. Il faut savoir que les bébés restent dans la yourte les 10 premiers jours. Donc
avec la famille.
Avec la famille. Donc c'est vraiment, c'est vraiment des membres de leur famille. C'est culturel. Ils en prennent soin vraiment avec beaucoup d'amour et de respect.
C'est chouette.
Ouais, c'est très
chouette. Donc, cette laine, elle est récoltée au printemps.
Exactement.
Elles vont dans les usines de fabrication que vous avez.
En fait, les nomades vendent leur matière à l'usine. Et une fois que l'usine a récupéré ses gros ballots de matière brute, c'est à ce moment-là où on a toute la partie industrialisation qui démarre. Donc avec le nettoyage de la fibre, le tricotage, etc.
Alors tout à l'heure, tu parlais des couleurs.
Oui.
C'est pour ça que vous produisez peu de pulls noirs. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ?
Alors, il se trouve que la fibre de cachemire est une matière extrêmement fragile, qui était effectivement très connue pour ses particularités nobles. Mais la teinture fait que ça agresse un petit peu la fibre. Et donc, pour avoir toutes les vertus...
Particulièrement la teinture noire.
Et particulièrement le noir. Donc, plus on va aller foncer dans les teintures, et plus la fibre va être abîmée, un peu agressée.
Et du coup, effectivement, on on essaye de pas trop en fabriquer. Malheureusement, c'est la couleur que tout le monde veut. Mais c'est vrai que au toucher, on sent tout de suite qu'un cachemire de couleur noire va être beaucoup moins doux. Moins soyeux finalement. Que
c'est pas lié à une histoire de pollution, parce que beaucoup de gens mélangent et disent non, c'est parce qu'il y a de la teinture, donc c'est pas bon pour l'environnement. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour la qualité du fil.
Pour la qualité du fil.
Oui, parce qu'on a des teintures végétales, donc que ce soit noir ou d'une autre couleur.
Ça, c'est important de le dire. Les teintures végétales.
Les teintures sont végétales, donc de toute manière, elles polluent moins qu'une teinture
normale.
Voilà, exactement, voilà, industrielle chimique. Mais en revanche, quelle que soit la couleur, plus les matières sont foncées, plus ça va agresser la fibre et plus le toucher va être difficile, l'entretien va être plus difficile. Ça risque
de boulocher, de feutrer aussi. Donc voilà.
Ça va abîmer la.
Mais c'est comme nous en fait quand on se colore les cheveux chez le coiffeur.
C'est pas mal comme métaphore.
Voilà.
Quelle est la différence entre un cachemire de fil et un autre pull en cachemire 12 fils, à part le prix?
Alors, à part le prix, ce qui va faire la différence, c'est son épaisseur. Plus on va mettre de fil, plus la maille va grossir et va s'épaissir, et donc va tenir encore plus chaud. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une question d'épaisseur.
C'est une question de chaleur. Et pas de qualité chaleur. Parce que j'ai entendu dire que le cachemire pas de fil, c'était pas...
Pas du tout. On peut avoir un très beau cachemire de fil et avoir une excellente qualité. Ça n'a rien à voir.
À la rigueur, il vaut mieux un cachemire de fil de bonne qualité qu'un cachemire
exactement.
De... Exactement. Qu'un cachemire six fils acheté chez Monop.
Tout à fait.
Sans attaquer Monop.
Ou ailleurs.
Ou ailleurs, oui. Non, non, mais j'en prends les responsabilités. Comment on lave un pull en cachemire?
Alors, comment on lave un pull en cachemire? Il y a plusieurs façons de laver son pull. Moi, je préconise vraiment le lavage en machine. Aujourd'hui, on est quasiment toutes équipées d'une machine à laver avec un programme laine. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus
simple. Le cachemire aime être lavé.
Le cachemire aime l'eau. Et au contraire, il devient de plus en plus, on va le laver et plus il va s'adoucir. Souvent, on achète un cachemire et le toucher est doux, certes, mais peut-être pas assez. Et plus on va le laver, plus la matière va gonfler et va redonner en fait, vraiment de sa noblesse en s'adoucissant. Donc, il faut vraiment le laver à l'eau.
Laver en programme laine avec, quel type
avec
de lessive?
Un tout petit peu de lessive spéciale laine. Ou alors encore mieux, ça peut être du shampoing aussi.
Shampoing
bébé, c'est super. Mais vraiment en toute petite dose. Et vraiment pas d'essorage. Donc, le minimum d'essorage possible sur une machine.
Et le séchage à plat, j'imagine?
Le séchage toujours à plat, sur une serviette, pour que, en fait, cela absorbe vraiment
l'eau.
Ah,
on apprend plein de choses,
voilà.
Là.
Je... Ah, sur je une serviette, pas. C'est très bien. Parce que si on met ça sur un tendeur, on risque d'avoir des petites vagues après
oui, c'est
sur
vrai.
Son pull. Et jamais sur cintre, à moins qu'on
parce que ça tire la fibre.
Ça tire complètement la fibre. Sauf si on veut gagner 10 cm et passer d'un petit pull à une tunique. Mm-hmm. Ça peut marcher.
Pas bête. Tout à l'heure, vous... Ah oui, juste une autre chose aussi, les bouloches.
Alors, les bouloches,
comment on peut faire ?
C'est une caractéristique de la matière cachemire.
Ah, c'est une caractéristique
voilà, donc ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise qualité. Voilà, donc il faut le savoir.
Si le fil est court, ça va quand même plus boulocher.
Alors,
que
tout,
si le fil
tout dépend de la qualité. Il y a vraiment une qualité.
Ne parlez pas en même temps, les filles.
D'accord. Ce qui donne vraiment la caractéristique d'un beau cachemire, c'est la fibre. Quelle est la fibre qui a été utilisée? Mais la consommatrice ne sait pas forcément. Nous, en tant que professionnels, on va savoir que plus la fibre est longue, plus elle va être
c'est
résistante.
C'est ce que vous expliquiez en début d'épisode.
Exactement.
Mais si tu veux, beaucoup de femmes, on va reparler à la fin de l'émission, mais j'ai demandé à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram mm-hmm. De poser des questions sur le cachemire. Et la question des bouloches revient souvent.
Alors, il faut savoir aussi que ça dépend aussi de chacun. Il y a des peaux qui boulochent plus que d'autres. Voilà.
Comment ça, notre peau ?
Votre peau, exactement. On est chacun
pH de la peau.
Le pH de la peau, voilà. Donc, il y a des personnes qui vont boulocher
si
plus que d'autres.
On a une peau plus acide.
Exactement. Voilà. Donc, il y a des peaux qui réagissent plus effectivement, corrosivement, on va dire, à la fibre, et d'autres, au contraire, pas du tout.
Ah,
donc,
c'est dingue,
nous, par exemple, dans nos équipes, on y a des personnes qui vont avoir des pulls, qui, pourtant, ils ont un vestiaire commun, et ils vont boulocher plus que d'autres, et pourtant, c'est le même fil, la même couleur, la même teinture.
Ah, c'est incroyable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on mette plein de crème sur la peau, hydratante, avant de mettre notre cachemire.
Bah, déjà, il faut éviter les frottements. Il faut savoir que si on bouloche beaucoup, il faut éviter, effectivement, de porter trop près du corps. Parce que le cachemire est très sensible au frottement. Donc, au tout début, le petit excédent, c'est un excédent de matière. Ce n'est pas forcément des bouloches de mauvaise qualité. C'est un excédent. C'est la maille qui rejette vraiment l'excédent de cachemire. Et après, au fur et à mesure des lavages, on a un excellent toucher et un beau cachemire très doux.
Voilà, de toute manière, pour les bouloches, on fournit, mais ça se trouve en mercerie, ça se trouve à peu partout, des petits peignes à des boulochages.
Chez Custon, vous en fournissez?
Oui, ouais, exactement.
C'est bon à savoir.
Voilà, gratuitement, en général, au moment de l'achat. Donc, il faut y aller très énergiquement, il ne faut pas avoir peur. On étend son pull sur la table, on prend le peigne, on débouloche systématiquement avant chaque lavage. On lave. Une fois que c'est séché, on peut redéboulocher encore un petit peu. Et au bout de 3 ou 4 lavages, a priori, il y a vraiment plus de bouloche. Donc, c'est vraiment une question d'entretien. Et c'est vrai que le boulochage, c'est un frein à l'achat du cachemire qu'on a clairement identifié, nous, en tout cas chez nous. C'est vrai qu'on va faire des masterclass. On va vraiment apprendre, finalement, à nos clientes à entretenir leur cachemire. Parce qu'un pull bouloché, c'est pas normal. Enfin, c'est normal que ça bouloche, mais c'est pas normal que ça reste bouloché.
Donc, à nous de... En fait, c'est comme un copain.
Il faut l'entretenir.
C'est un copain pour la vie.
Exactement, complètement. C'est un compagnon pour la vie.
S'il n'y a pas de mythe qui envahisse un dressing, oui. On peut garder un cachemire très, très longtemps.
Très, très longtemps. Très, très longtemps.
C'est ce qui fait la qualité. C'est là qu'on voit que le cachemire est
qualité.
C'est
là qu'on voit que la qualité est excellente.
Alors... Pour finir, tout à l'heure, tu expliquais qu'il faut regarder la traçabilité.
Oui.
Qu'est-ce que la consommatrice lambda qui arrive qui voit un super pull cachemire dans n'importe quelle enseigne, on ne va pas citer de marque, comment elle peut savoir qu'est-ce qu'il faut regarder l'étiquette?
Alors tout d'abord, il faut regarder l'étiquette.
Et surtout, cette
évidemment.
Période de solde. Hein. Là, j'ai l'impression que les cachemires sont tous en solde, sont tous soldés. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors évidemment, il faut regarder l'étiquette, mais aujourd'hui, le made in, ce n'est plus forcément un gage de qualité. Il faut effectivement parler.
Il faut interroger la,
la vendeuse, de savoir que voilà, on met les pieds dans une maison de tel et tel cachemire et savoir si effectivement, il y a une vraie traçabilité, une vraie communication autour de la fabrication. Et de la traçabilité. C'est important de savoir où est fabriqué et comment.
Alors, je vais reprendre les questions que m'ont posées les personnes sur mon compte @valerietribe. Rachel m'a posé une question. Les Écossais sont les rois du cachemire. Est-ce vrai ou faux? Tout à l'heure, tu en as parlé de l'Écosse. C'était avant ou c'est encore?
Alors, c'est effectivement les rois du cachemire. Et c'est vrai qu'à l'époque, on en trouvait quasiment très, 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 très peu sur le marché. C'est venu beaucoup plus tard en Asie. Et effectivement, l'Irlande et l'Écosse restent vraiment les pays producteurs de cachemire.
Malheureusement, ils ont un petit peu perdu leur industrie textile en Écosse au fil des années, donc c'est vrai qu'il y en a quand même de moins en moins, mais effectivement, c'est eux qui avaient initialement un des meilleurs savoir-faire sur la façon sur le cachemire. Mais il y en a de moins en moins quand même.
Et la qualité est exceptionnelle là-bas aussi, grâce à l'eau. Effectivement, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le cachemire, effectivement, a besoin d'eau. Mmh. Et pour son traitement, et pour sa fabrication, et son entretien. Et c'est vrai qu'en Écosse, dans cette région-là, l'eau est a une particularité, donc ce qui donne vraiment ce toucher exceptionnel.
Peut-on déterminer... Tu parles de toucher, donc c'est une bonne transition. Je lis la question de My Anew. Peut-on déterminer au simple toucher et à la vue si le cachemire est de bonne qualité?
Effectivement, le toucher est très important, mais c'est pas forcément une finalité. C'est-à-dire que on peut effectivement tricher entre guillemets en lavant beaucoup beaucoup la maille et d'avoir un toucher extrêmement doux, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est d'une extrême qualité. Il peut y avoir le tricotage qu'on appelle un peu déjaugé ouvert, qui va faire qu'il y a beaucoup d'air qui passe entre les mailles, et là le pull va énormément boulocher. Donc c'est pas forcément le toucher qui est un critère de qualité.
Parce qu'effectivement, quand on touche un pull, en général, plus on voit par transparence, c'est-à-dire que le pull est creux. C'est-à-dire que vraiment, il y a peu de matière. Donc effectivement, comme disait Stéphanie, il peut être très, 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 très doux. Mais déjà, voir les doigts en transparence... C'est pas bon. Alors effectivement...
Il vaut mieux que la maille soit serrée.
En général, voilà. Plus la maille est serrée, moins ça va blocher, plus ça va tenir. Après, ce sera moins doux. Un cachemire dont les mailles sont un peu plus évasées, voilà, déjaugées, qui est une particularité que les femmes aiment beaucoup. Hein. On en vend du déjaugé parce qu'on sait que ça va moins bien tenir, mais c'est très, très agréable à porter, c'est plus aérien. Mais ça va être plus difficile.
Pourquoi le cachemire de maintenant bouloche comme avant un mauvais acrylique?
Bah, je pense qu'encore, ça dépend de la fabrication, ça dépend de la marque. Je pense qu'on ne peut pas faire une généralité de dire le cachemire maintenant, etc. Donc, encore une fois, c'est faut être sûr de la composition, de l'origine, poser des questions, se fournir chez un expert du cachemire.
Oui, il vaut mieux aller dans des marques
généralistes.
Pour finir, il faut aller chez des spécialistes du cachemire.
Bah, nous, c'est ce qu'on préconise. Voilà,
vous ne vendez que du cachemire.
Oui, on vend que du cachemire.
J'ai une question qui m'amuse. Pourquoi on dit que le fil de cachemire est mou ? Est-ce qu'il est plus mou ? Ou c'est une légende ?
C'est une légende parce que c'est un fil extrêmement résistant, qui a au contraire une durée de vie beaucoup plus longue qu'un fil classique de laine. Donc non, c'est pas un fil mou. C'est un fil très résistant, au contraire.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes ? Quelle est votre valeur ajoutée chez Kuchten ? La traçabilité ?
La traçabilité, mais également on s'occupe des femmes, on chouchoute les femmes, on veut les rendre belles, on veut leur faire découvrir le cachemire sous une autre forme.
Oui, vos pulls cachemire ont des coupes modernes aussi, il faut le dire. Et il y a des cachemires, vous vendez des cachemires en été, parce que les pulls cachemire se portent aussi en été.
Complètement. En fait, le cachemire, c'est une fibre, ce qu'on appelle thermorégulatrice. C'est-à-dire qu'elle se porte aussi bien l'hiver pour tenir chaud, mais elle régule aussi la température du corps. Mmh. Donc l'été, c'est quand même très agréable de pouvoir porter un petit cachemire.
Donc là, deux fils plutôt.
Plutôt un deux fils, complètement. Oui, exactement.
Et une dernière question, qu'est-ce qui justifie les écarts de prix ? Il y a certains cachemires à 50 euros. Bon, là, on sait que ce n'est pas vraiment qu'il y a un peu d'abus, mais certains pulls cachemire sont à 800 euros. D'accord. Qu'est-ce qui justifie de tels écarts de prix ?
Rien ne le justifie d'un point de vue qualité, disons qu'à qualité égale. Si on enlève finalement tous les pulls à moins de 100 et tous les pulls à plus de 500 euros, disons que entre 150 et 350 euros, on peut considérer qu'on est plus ou moins dans la même qualité, toutes choses égales par ailleurs. Les pulls à plus de 350 euros, c'est vraiment une question de marge. C'est les marques, finalement, de luxe qui vont marger plus, qui vont faire plus de publicité, qui ont plus de coûts, qui ont un nom, qui veulent se prétendre.
C'est du marketing.
C'est que du marketing.
Si on achète un pull à 800 euros, en gros...
Il ne sera pas de meilleure qualité qu'un pull à 200 euros, sauf... Enfin, non, a priori, ça ne se justifie absolument pas du tout.
Quel est le prix raisonnable pour un pull cachemire ?
En fait, ça dépend du poids. Ça dépend parce que le cachemire est une matière qui s'achète au poids, en fait, déjà à la production de base. Donc, plus un pull va être lourd, plus il va être cher. Mais disons que sur un fil en jauge 12, deux fils qui est le standard.
Un cachemire deux fils.
Le cachemire de fil en jauge 12.
La jauge 12
est importante. C'est la façon, le tricotage.
Oui, c'est ce que tu disais au début d'émission.
Donc le col rond classique, etc. On peut considérer qu'entre 100 et 200 euros...
On ne se fait pas avoir.
C'est raisonnable. On ne se fait pas avoir, voilà,
par
exactement.
Par contre, si on le paye 400 euros...
A priori, exactement.
Merci infiniment, les filles.
De rien, Valérie.
Merci, Valérie.
Je tiens à remercier aussi le magazine Grazia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.